de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Depuis 20 ans, à Essaouira, au Maroc, le festival Gnawa réunit les maîtres de la musique Gnawa et des artistes de tous les pays. Devant un public international, on y célèbre la tradition d'une culture et son ouverture au monde. L'attrait exercé par la musique Gnawa sur les musiciens occidentaux ne date d'ailleurs pas d'hier. Déjà dans les années 60, Jimi Hendrix traînait sa Fender du côté d'Essaouira et, avant Robert Plant et Jimmy Page, le jazzman Randy Weston et bien d'autres étaient allés puiser leur inspiration dans cette musique de trance marocaine. Produit de plusieurs syncrétismes religieux, spirituels et sociaux, il faut peut-être croire que le creuset Gnawa est, plus qu'un autre, propice aux fusions musicales du monde globalisé. Mais qui sont au juste les Gnawa ? Où cette confrérie de possession a-t-elle ses origines ? Quels en sont les rituels ? Comment leur danse, leur chant, leur musique s'accordent-ils aux structures et à l'esprit de leur cérémonie ? Autant de questions auxquelles se proposaient de répondre les chemins de la musique de Daniela Langer en 2001, dans le quatrième volet d'une série de cinq intitulée « Extase et possession ». Extase et possession, quatrième émission, les rites de possession au Maghreb avec l'ethnomusicologue Bernard Lorta Jacob et l'ethnopsychologue Abdelhafid Schlihe.
Extase et possession. Aujourd'hui, les rites de possession au Maghreb. La semaine prochaine, dans le cadre du Festival de l'Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde accueille pour trois spectacles exceptionnels un rite de possession de la confrérie Stambali de Darbanou de Tunis. Ainsi, un vieux rêve de Chérif Khaznadar, le patron de la Maison des Cultures du Monde, vient enfin à se réaliser. Peu connu en Tunisie même, car interdit pendant tout le règne de Bourguiba, et complètement ignoré partout ailleurs, ces Gnawa tunisiens, aujourd'hui presque en voie de disparition, offriront ainsi l'heureuse occasion à ceux qui, ici en Europe, ont depuis longtemps succombé au charme hypnotique et thérapeutique du gumbli, des crotales et du chant des Gnawa marocains, une occasion donc d'élargir leur éventail de sensations, d'approfondir peut-être leur expérience en l'exposant à une confrontation bénéfique. Avec nous aujourd'hui Bernard Lorta Jacob, ethnomusicologue et amateur éclairé, et pour commencer Abdelhafid Schlihe, ethnopsychologue, ethnologue et spécialiste des Gnawa marocains.
Les Gnawa, comme le Stambali tunisien, le Stambali signifie tout simplement la cérémonie consacrée au rite de possession, mais le terme générique ce sont les Gnawa, qui existent aussi bien au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, et qui ont aussi leurs cousins au Soudan avec le Zar, par exemple. Ils appartiennent tous à cette culture de rite de possession qui ont beaucoup de points communs et je dirais même le fond est le même, à la fois entre les Gnawa du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Libye par exemple. Partant des Gnawa du Maroc ou même des Gnawa de Tunisie, c'est l'origine est africaine parce que ces populations sont issues historiquement d'Afrique subsaharienne, qu'on appelait autrefois le Soudan. D'ailleurs, les Gnawa, quand on leur pose la question de savoir d'où ils viennent, ils répondent qu'ils viennent du Soudan, ce qui signifie le Soudan occidental, c'est-à-dire tous les pays au sud du Sahara. Donc, ces Gnawa ont une culture profondément africaine, mais en même temps, ils se sont fondus dans les cultures maghrébines, qui sont à la fois berbères, arabes et musulmanes. Alors, les Gnawa sont musulmans, bien entendu, et ils pratiquent un rite de possession qu'on pourrait qualifier de syncrétique, puisqu'il y a à la fois les apports africains, les apports berbères et les apports arabo-musulmans. Ces populations d'origine africaine, maintenant complètement métissées, constituent des confréries dans tous les pays du Maghreb, qu'on appelle la confrérie des Gnawa ou la confrérie des Bilaliens, ça dépend. Ils se réclament tous les Gnawa du Maghreb se réclament de Bilal, qui est un compagnon du prophète, qui a existé historiquement, qui était aussi le premier musain de l'islam, qui est d'origine bien entendu abyssine, donc il est noir, il était esclave, il a été affranchi, et les Gnawa le reconnaissent comme leur ancêtre, un peu comme chez les soufis, chez les confréries soufis, où il y a un maître fondateur de la tariqa, c'est-à-dire de la voie, et il y a des équivalences entre les confréries soufis, comme les Aïssawa, les Ahmadcha, etc., il y en a beaucoup, et les confréries des Gnawa, bien que la transe chez les uns et les autres diffère. Chez les Gnawa, c'est une transe de possession, alors que chez les Aïssawa, les Ahmadcha, c'est-à-dire les confréries appartenant au soufisme, ce sont des transes extatiques. C'est-à-dire que la personne en état de transe, chez les Gnawa, elle est habitée par une entité surnaturelle qu'on appelle l'emlouk, un melk au singulier chez les Gnawa, alors que chez les soufis, ils sont plutôt ravis par la présence divine qui cherche à atteindre la réalité divine avec un grand R.
Si je me réfère à la distinction théorique que Gilbert Rouget a fait dans son livre consacré à la transe et à la musique, au rapport de la transe et la musique, où il distingue justement entre la transe et l'extase. Alors si maintenant on introduit un terme qui relie les deux données, la transe et l'extase, transe extatique et transe de possession, on a du mal à s'y retrouver. Alors j'aimerais bien déjà vous demander comment les unes et les autres des trans extatiques et de possession se manifestent-elles.
Les explications que je vous donne, c'est les explications que donnent les membres de la confrérie eux-mêmes. Si les soufis sont ravis par une réalité divine, ils ne sont pas incorporés par une entité. Chez les Gnawa, c'est une transe où la personne est habitée pendant le rituel par un esprit, par un melk. Et c'est ça la différence. Et dans les deux cas, cela suppose toute une initiation qui commence à un certain âge et qui dure plusieurs années, notamment chez les soufis où il y a plusieurs stades, plusieurs stations avant d'arriver à être en état de transe extatique. Par contre, chez les Gnawa, bien entendu, il y a aussi un parcours initiatique qui fait qu'on entre en transe. Mais la différence avec la transe de possession, c'est que la transe de possession peut arriver subitement. Alors, on peut distinguer deux sortes de transe de possession. Une transe de possession qu'on pourrait appeler maléfique, morbide. C'est-à-dire que la personne est sous l'autorité, sous le joug d'une entité surnaturelle, un djinn par exemple, qui le tourmente. Et donc, c'est une souffrance à ce moment-là. C'est un malaise. C'est une crise, disons, pathologique. Par contre, lorsque la possession se produit pendant le rituel exécuté par les Gnawa, ceci est une transe de possession ritualisée, bénéfique. C'est on entre en contact avec une entité surnaturelle qui a une relation avec l'adepte. La possession, l'état de possession peut se produire instantanément pendant le rituel, mais dans certains cas, il y a, même dans le cas le plus général, c'est qu'il y a une initiation qui commence et qui aboutit à entrer en transe de possession pendant le rituel, sur une entité définie qui a été précisée à l'avance lors d'une consultation par ce qu'on appelle les voyantes, les mokadma des Gnawa, qui sont des femmes autour desquelles se regroupent tous les adeptes des Gnawa. Alors aussi bien chez les Gnawa que dans le Stambali, que chez les Gnawa de Tunisie, il y a deux catégories de membres qui animent ces rituels et qui aussi procèdent à l'initiation des adeptes. Il y a les maîtres musiciens, qu'on appelle le malam, un malam, qui apprend le métier d'animateur du rituel, de possession, pendant des années, sous l'autorité d'un autre malam déjà installé. Parce que le maître musicien n'est pas seulement un musicien qui joue de la musique pour animer le rituel, il doit être aussi capable d'accompagner la deuxième catégorie des membres de la confrérie, qui sont les mokadma, qu'on appelle aussi au Maroc chouafa ou talaa, et qu'on appelle arifa en Tunisie. Donc il doit être capable, le malam doit être capable de conduire les initiations et les pratiques initiatiques rituelles que fait la mokadma ou l'arifa durant toute l'année. Alors à côté de ça, vous avez aussi un ensemble de personnes qui fréquentent les rituels de possession, qu'on appelle la lila de Dadba au Maroc et qu'on appelle le stambali en Tunisie, et qui fréquentent uniquement le rituel. Ils entrent en transe, mais ils ne sont pas du tout dans un processus d'initiation pour aboutir au statut de voyante ou d'arifa. Mais il y a aussi des gens qui fréquentent les lilas et qui sont là, mais qui n'entrent pas en transe, pas forcément, mais qui sont ce qu'on appelle des sympathisants aussi. Alors la majorité, bien entendu, de ces adeptes sont des femmes. La confrérie des Gnawa, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, les deux tiers des adeptes sont des femmes. Voilà une originalité de ce système gnawi. En dehors du rôle de l'initiation, la voyante, qui est la mokadma chez les Gnawa et l'arifa chez les Gnawa de Tunisie, dispose aussi d'un certain nombre d'objets et d'accessoires rituels pour justement animer le rite de possession, la dadba, chez les Gnawa du Maroc, et pour animer le stambali chez les Gnawa de Tunisie, et qui vont capter la baraka, c'est-à-dire la force bénéfique des esprits, des louks, hein, qui sera ensuite transmise aux adeptes pour différentes raisons, soit pour être thérapeutique, soit pour aussi initiatique. C'est aussi elles qui sont les cœurs du système, c'est autour d'elles que se regroupent les adeptes, et c'est elles qui recrutent les adeptes. Donc vous voyez que chez les Gnawa, il n'y a pas que les musiciens qui jouent un rôle, il y a également et surtout ces femmes qui occupent une place importante et qui vouent toute leur vie à cette pratique. l'animation du rituel de la derba au Maroc et du stambali en Tunisie implique la présence de ces accessoires et de ces objets rituels et le suivi par le maître musicien de tout le répertoire. Alors le maître musicien, il joue l'air et en même temps il chante des invocations et des appels à ses esprits, à ses bloucs et à ses saints. Les adeptes, chacun a un esprit sur lequel il entre en transe, un melk. Donc ce melk va être invoqué par le malem, et lorsqu'on invoque le melk, on va sortir la tunique de couleur qui correspond à ces entités, et on va en mettre l'encens qui correspond à ces entités. Donc ce n'est pas seulement la musique toute seule qui induit la transe. Bien entendu, le maître musicien, c'est aussi un technicien de la transe, on peut dire, puisqu'il va suivre l'adepte, il va gérer par son instrument qu'on appelle le genbri, qui est un luth-tambour à trois cordes, à registre bas, qui sert à appeler les esprits et à gérer la transe des adeptes pendant le rituel. De même que la voyante, elle est là parce que ce sont d'abord ses clients à elle, et il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner la transe d'un adepte.
Mais comment le malem, le joueur de gamri, gère-t-il cette transe? Qu'est-ce qu'il fait exactement pour la gérer? Est-ce qu'il entretient un tempo spécifique? Est-ce qu'il accélère, ralentit, s'arrête, etc.?
Oui, bien sûr, une fois que la personne est en transe, elle est devant lui. Donc il va suivre un rythme, l'augmenter ou le baisser, la faire, bon, c'est toute une technique, la faire reculer, avancer, jusqu'au moment où la personne tombe et sort de transe. Mais le maître musicien n'explique pas l'état de transe par la musique qu'il joue. La transe s'explique par la présence de l'esprit, par l'ensemble des choses exécutées pendant le rituel, depuis les sacrifices, jusqu'aux encens, jusqu'à l'air et à la devise « chanter et jouer » par le guenbri.
Alors, Jacob, vous êtes aussi intéressé longuement aux musiques marocaines, arabes et berbères. Est-ce que vous avez eu affaire à des phénomènes de possession de transe dans ces musiques-là?
Il se trouve que oui, en effet, j'ai suivi à plusieurs reprises des lilas, c'est-à-dire des cérémonies de possession à Meknès et à Fès, et en voyant un peu comment se compose et s'articule cette espèce de grande messe, finalement, qui représente une cérémonie de possession qui dure 5-6 heures et qui s'organise spontanément, en principe d'ailleurs chaque samedi, à la demande d'une femme parce que après tout elle se sent pas bien, ou pour un vœu, ou tout simplement par croyance, j'allais dire, quasi quotidienne, ou en tout cas hebdomadaire, une façon de réveiller un peu son appartenance à une communauté et sa relation privilégiée avec un esprit. Alors, ça ne se fait pas de façon comme ça, aussi simple, hein, parce que les esprits, d'abord, ils sont un peu capricieux, ça fait partie de leur charme, si je puis dire, au sens double du terme, mais tout simplement parce qu'il s'agit d'une cérémonie religieuse, une para-religieuse. Hein. On voit bien qu'une cérémonie se prépare, d'abord par des prières, ensuite par des chansons, des chants, et puis après vient le fameux dhikr, c'est-à-dire la prononciation du nom d'Allah de façon très rythmée. Et au cours de ce dhikr, et peut-être généralement quelquefois un tout petit peu après, vient cette espèce d'exploration du monde des génies avec l'intermédiaire de la musique. Et les génies, notamment au Maroc, chez les Aïssawa, sont identifiés musicalement, c'est-à-dire qu'on les reconnaît à partir de leur mélodie. Et ça vaut pour beaucoup de musique de possession en général, c'est-à-dire qu'ils ont un contenu symbolique et un contenu acoustique. Et c'est peut-être même finalement la façon la plus commode de les identifier, c'est par la musique.
Vous venez de dire, Bernard Lata-Jacob, que chacun des adeptes de la confrérie a, a priori, un génie propre. Ça veut dire que avant même que la cérémonie commence, l'adepte dit le nom de son génie et les musiciens s'arrangent pour jouer précisément les formules mélodiques qui lui sont propres.
Ça serait un peu facile si les clients, en quelque sorte, qui pratiquent ces soirées avec les musiciens, déclaraient tout net « faites-moi cette musique ». Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'abord parce que c'est une affaire un peu secrète, chacun a ses génies, peut en changer. Mais je pense que les musiciens, puisqu'en définitive une lila, ça se présente un peu comme une association de village ou de quartier. Hein. Les confrères sont groupés par quartier, ils ont leur culte local, et donc il est clair que les musiciens et le public, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui fréquentent ces soirées, se connaissent très bien. Donc il y a de fortes chances, il faudrait voir ça cas par cas, que les musiciens savent très bien que cette femme ou ce type partent, cette expression rapide, partent avec leur génie sur telle musique et d'autres sur d'autres musiques parce qu'elles sont associées à d'autres génies. Sans doute ils le savent. Mais il ne s'agit pas non plus de ça. Ce n'est pas exactement un self-service en fait. Il faut voir ça d'abord comme une cérémonie, c'est-à-dire d'abord chacun à sa place. Pourquoi est-ce qu'on prendrait le privilège d'un seul coup de se mettre en avant? Il s'agit de convoquer l'ensemble des génies et des esprits. Hein, et chacun là-dedans reconnaîtra les siens. Ça serait dans le fond assez peu collectif et pas tellement dans la mentalité de ces sociétés qui se pensent quand même d'abord collectivement et communautairement, d'imaginer que chacun va, comment il va au marché, chercher un paquet de riz. Donc c'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être ensemble, de convoquer les génies par la musique, de trouver son génie, de faire sa propre affaire avec lui, et d'entrer en transe, de se faire prendre par lui, et la musique étant là en somme pour satisfaire le génie. Donc le génie étant content, une fois qu'il est arrivé dans la personne, on lui a trouvé sa musique, il y a une espèce de pacification, mais on voit bien que tout ça, ça passe par une articulation globale. On va pour essayer de se délivrer à la fois d'un mal-être, ça c'est certain, et de frayer avec celui qui est censé vous apporter du bien, qui est le double de vous-même, qui est le double supranaturel de vous-même. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est à la fois plus intime et plus complexe qu'un système strictement automatique et mécanique.
ثم الشرفاء ثم اهل الوفا ثم الشرفاء ثم اهل الوفا ثم الشرفاء ثم اهل الوفا ثم مولاي محمد عليه السلام
Les possédés sont généralement, ils sont en situation de souffrance, c'est certain, mais en même temps, s'ils pratiquent cette cure, c'est bien parce qu'ils y trouvent un certain confort, ou un réconfort en tout cas. Je ne suis pas un spécialiste de la possession, pas du tout, je préfère le dire, mais ça m'avait frappé, moi, le lendemain d'une grande fête à Issaoua. Quand on voit les gens, quand on les revoit au marché, parce qu'on a passé 5 heures ensemble, donc on se connaît, bon. Et puis quand on l'a fait plusieurs fois, en plus on se connaît bien. On trouve une espèce d'apaisement. Et c'est très étrange. Dans un petit village, alors justement, qui avait deux ou trois confréries, qui est assez paradoxal. Donc, ça se trouve ça dans les situations piémontaises vers Demnat, au Maroc. Et alors, le lendemain d'une grande fête avec les confrères, d'un seul coup, on trouvait, je ne sais pas, ça m'avait apparu très clairement, une espèce de paix qui s'était établie, une gentillesse renouvelée. Ce que je dis est un peu élémentaire, mais enfin, on voit bien que quelque chose s'était passé, comme lorsque vous allez voir votre médecin et que vous avez un malaise. Et donc là, c'est un malaise qui s'est dissous un peu collectivement et on trouvait un climat de paix que je trouve... disons, si c'était le lundi matin, le climat du lundi n'avait rien à voir avec celui du vendredi, samedi, Et donc c'est bien parce que quelque chose s'était passé d'important, qui touche à la fois certainement à l'énergie qu'il faut, parce que c'est assez épuisant d'entrer en transe, de danser pendant des heures, etc. Mais aussi parce que ça devait aussi satisfaire quelque chose d'ordre spirituel et qui était calmé ou accalmé grâce à l'intervention des musiciens et des génies qui sont censés faire venir. On s'aperçoit que la musique a une fonction structurante assez marquée. C'est-à-dire que, en gros, on va du lent au rapide, ce qui est quand même pas rien, comme dans les suites musicales souvent, et assez systématiquement du grave à l'aigu. Donc, vous voyez, c'est plus que de la symbolique. On a l'impression qu'il y a une, on s'élève en quelque sorte. On s'élève au sens double du terme, métaphorique de ce qu'est la musique. On élève aussi son âme en allant du grave, des sonorités très graves, à des sonorités de plus en plus aiguës. Et en plus, d'ailleurs, on passe d'un spectre relativement large du point de vue de l'espace sonore, avec on voit bien ça sur les analyses, et à un spectre très réduit, c'est-à-dire un son qui devient d'un seul coup presque effilé, qui devient aigu, effilé, et qui est d'une autre nature. Donc on peut comprendre que métaphoriquement, la musique, sans déclencher la transe, ou participe, ne serait-ce que par cette cohérence formelle et structurelle, à cette évolution, à ce changement d'état, puisqu'il s'agit d'un changement d'état. Autrement dit, le changement d'état se trouve à la fois dans la structure et à la fois dans l'esprit de celui qui la reçoit, la perçoit et la comprend.
Extase et possession, aujourd'hui les rites de possession au Maghreb, avec Bernard Lortajacom et Abdelhafid Chlieh. Mixage Pascal Revel, Pierre Mine, réalisation Cécile Koenig.
Cette émission a été diffusée la première fois le 15 mars 2001 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.